Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors vous nous connaissez maintenant, c'est un podcast qui rassemble des personnes de tous horizons, déjà des personnes qui travaillent au ministère de l'Intérieur, mais pas que, des experts, des personnalités, des citoyens aussi qui bénéficient à un moment donné de notre travail au ministère de l'Intérieur, notamment notre travail de protection, notre travail d'enquête aussi. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler des œuvres d'art. Et oui, nous allons parler des tableaux d'artistes, des peintures de maîtres, des statues, des sculptures, des chefs-d'œuvre, des tapisseries, des gravures, des photographies. Bref, j'ai avec moi deux experts des œuvres d'art. Alors, pourquoi le ministère de l'Intérieur s'intéresse aux œuvres d'art? Parce qu'on les protège. On va le voir, on a des services spécialisés qui travaillent sur les enquêtes, sur les vols, parfois, de ces œuvres d'art. Et on travaille pour ce faire avec un certain nombre d'experts qui connaissent encore mieux que nous chacune de ces périodes, qui connaissent sur le bout des doigts l'histoire de l'art. C'est l'objet de ce podcast aujourd'hui, vis-à-vis le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors déjà, merci. Merci à vous deux, Thomas et Vincent, d'être avec nous. Peut-être on va commencer par vous, Vincent. Qui êtes-vous et que faites-vous dans votre vie et pourquoi vous vous êtes tourné à un moment donné vers cette question de l'art?
Bonjour, merci de m'accueillir. Alors je suis donc Vincent, je suis professeur d'archéologie à l'université de Poitiers et je suis archéologue, je suis orientaliste. Donc mes terrains
alors orientaliste, ça veut dire?
Dans orientaliste, il y a Orient et donc mes terrains de jeu et de fouilles, c'est exclusivement l'Orient. Donc les territoires comme la Syrie, l'Irak, la Palestine, Israël, la Jordanie, que des pays qui ont un passé absolument vertigineux. Et donc je m'y intéresse depuis une trentaine d'années maintenant. Et je mets à profit effectivement ces connaissances dans l'enseignement que je dispense aussi bien à Poitiers qu'à Paris.
Vous êtes prof d'Orient. L'Orient, les premières civilisations en Orient? Alors c'est moi qui pose des questions aux profs, attention. Ça date de quand? De combien? Alors, de dizaines de milliers d'années?
Oui, là effectivement, la grande période qui m'intéresse, c'est à partir du moment où l'homme a commencé à se sédentariser. Il a arrêté d'être nomade, il s'est sédentarisé. Et là, il a commencé à réfléchir, à essayer de comprendre le monde, à construire des maisons, à construire des temples, à construire des palais. Donc c'est toute cette période en fait qui m'intéresse, parce que l'Orient est un foyer très important. Et on va revenir, parce que bien évidemment, si c'est un foyer important pour l'histoire, si c'est un foyer important pour le patrimoine, c'est aussi et malheureusement un foyer important convoité par les trafiquants.
Et on va en parler dans un instant avec Thomas aussi qui est avec nous.
Bonjour.
Thomas, bonjour, tu es capitaine de police. Mmh. On dit souvent que dans la police, on est policier de père en fils, de mère en fille, etc. Est-ce que toi, Thomas, tu es d'une famille de policiers?
Ouh là là, pas du tout.
Ah d'accord, comme moi d'ailleurs.
Ouais, non. Alors justement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis à l'OCBC depuis une dizaine d'années.
Alors l'OCBC?
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Je suis plutôt issu du monde de la culture, avec un papa qui était scientifique au laboratoire du musée du Louvre, et une maman qui était secrétaire de direction dans un théâtre.
Donc,
quand j'ai dit que je voulais rentrer dans la police, même au niveau de mes grands-parents et autres, il y a tout le monde qui a fait un bond. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mon envie de rentrer dans la police, en fait, elle tient au fait que j'avais besoin de servir, en fait, de me rendre utile pour la société. Voilà. Et pour moi, c'était un métier qui me le permettait. Voilà. Que je trouvais intéressant, peu monotone et... Donc j'ai passé le concours d'officier.
Officier de police, oui. Lieutenant, on disait à l'époque, on le dit un petit peu moins,
oui.
Capitaine aujourd'hui. Tu es passé par quel service avant d'être dans cet office prestigieux?
En fait, je suis sorti d'école, ce qui n'est pas forcément très courant, directement en direction centrale à la police judiciaire.
Donc c'est possible. Des fois, oui. On a les jeunes qui nous disent, est-ce que c'est possible de commencer par de l'enquête en PJ? C'est possible, j'en ai la preuve vivante.
Ouais, c'est tout à fait possible, c'est pas forcément
le
chemin le plus fréquent, parce qu'il y a souvent un passage par le commissariat en sortie d'école, mais pas que. Voilà. Donc, je suis sorti à l'OCLCIC, donc c'est l'office central qui lutte contre la cybercriminalité, pour faire simple. À l'époque, j'étais adjoint de chef de groupe et j'ai appris le métier d'enquêteur avec mes collègues, avec mes collègues de groupe, avec un chef de groupe. J'aime bien les technologies, en fait. Donc ça a été. Je suis sorti dans ce domaine parce que je me suis dit ça va être très intéressant, très enrichissant. Et puis on n'a jamais fait le tour sur la cybercriminalité, le forensic, voilà. Puis après j'ai voulu changer complètement de matière parce que là pour le coup je passais des technologies aux antiquités, aux œuvres d'art, et là rien à voir. Donc je suis arrivé à l'OCBC comme chef de groupe d'enquête et j'ai découvert aussi une matière passionnante. Ça fait 10 ans que j'y suis et j'ai pas envie d'en partir pour l'instant. C'est signe que dans la police, on reste rarement en tant qu'officier 10 ans dans un service. Et là aussi, c'est un indicateur.
Est-ce que tu as une spécialité en termes d'histoire de l'art? Un truc où t'es bien calé?
Où je suis bien calé? En fait, on est tous sauf des experts des œuvres d'art. Donc moi j'étais 8 ans chef de groupe d'enquête et depuis 2 ans je suis chef d'un groupe de renseignement opérationnel et analyse criminelle. C'est un métier un petit peu différent, mais toujours dans la lutte contre le trafic des biens culturels. En une dizaine d'années, j'ai vu des œuvres d'art, j'ai vu des affaires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Du vol, comme on l'imagine dans les musées, de toiles de maître, ça c'est un petit peu le cœur de métier, c'est classique, le vol, le recel. J'ai vu des associations de malfaiteurs sur des affaires de trafic d'antiquité, donc là, rien à voir du tout. Des affaires de délinquance astucieuse, beaucoup de délinquance astucieuse, donc le faux. Les escroqueries,
Les contrefaçons,
exactement. Ça, c'est un vrai problème parce que ça vient polluer même nos collections et notre patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi. À chaque affaire, on découvre éventuellement un artiste, une période de l'histoire, etc. Et on n'est jamais vraiment expert spécialiste. Après, on peut avoir une appétence particulière sur un domaine. C'est pas forcément mon cas. Moi, j'aime naviguer entre les époques et les artistes. C'est pas un souci, quoi. Je veux dire, du moment que je fais de la police, je suis content, quoi.
Faut être curieux, quand même. Faut s'intéresser à cette matière.
Faut l'appétence, faut aimer ça. Ouais.
Alors, est-ce que vous êtes déjà croisés tous les deux dans votre carrière, Thomas et Vincent? Est-ce ici que vous vous retrouvez pour la première fois? Non, je crois pas.
C'est vrai que l'archéologue n'a pas forcément l'habitude de travailler avec la police, alors qu'on fait le même métier. Parce qu'on est un peu historien, les archéologues, et l'histoire, ça veut dire enquête. Et puis, on a le même but, c'est de protéger le patrimoine. Et donc, c'est vrai qu'on avait toutes les raisons de collaborer ensemble, mais sans forcément se connaître. Et en fait, il a fallu... c'est toujours une question de prise de conscience. On réagit parce qu'effectivement, on est acculé et qu'il faut réagir. Et j'ai eu l'occasion, en 2012, d'être expert sur une affaire qui intéressait 4 bustes qui souhaitaient sortir du territoire.
Et donc des statues.
Des statues, voilà. Des statues, de magnifiques statues.
En quelle matière? Je n'y connais rien.
Alors non, c'est des magnifiques statues en marbre.
Ah, waouh.
Il y en avait 2 qui étaient sans tête, 2 autres qui étaient avec tête, avec un magnifique voile, qu'on connaît très bien en Libye.
D'accord.
Parce que ce sont des statues qui représenteraient donc la déesse Perséphone. Donc Perséphone, c'est elle qui veillait sur le monde des morts. Donc 6 mois de l'année, elle errait dans les ténèbres, et puis 6 mois de l'année, elle était au-dessus des vivants. En fait, la Libye, depuis 2011, en fait, et donc c'est vraiment cet élément déclencheur, hein, le printemps arabe, c'était le premier élément déclencheur. C'est-à-dire que, et on le voit même en Ukraine maintenant, c'est-à-dire que les conflits ont toujours été des moments assez propices pour destruction, pillage, déplacement d'objets, vol. Hein. Et là, bah, voilà, ça n'a pas manqué. Alors j'étais très impressionné, parce que donc, j'étais convoqué par le CBC, et puis donc, j'étais assis effectivement, devant 2 enquêteurs qui me regardaient effectivement, comme ça. Moi, j'étais très impressionné. Et puis bah, j'ai raconté simplement l'histoire, c'est-à-dire que, comme dit Thomas, c'est que moi je suis un expert dans ces disciplines-là, et donc j'ai raconté ce que je savais sur ces statues, mais après, de prouver que c'était un vol, c'était un recel, c'était une escroquerie, ça c'est le côté au CBC. Et en fait, moi j'ai pris conscience qu'on pouvait se compléter mutuellement, hein, et qu'on pouvait former un binôme on ne peut plus opérationnel. Et bah, depuis donc 10 ans, bah, voilà, je travaille avec eux, pour eux, sur aussi bien la sensibilisation, la formation, que sur le côté répressif, c'est-à-dire le côté de l'enquête.
Alors, juste, toi, tu étais impressionné en étant en face de nous, et l'air de rien, nous, on était impressionné en étant en face de toi. Parce que, justement, vous êtes les sachants, de l'histoire, de la matière, les experts. Nous, on fait de la police, et en fait, on ne peut pas ne pas travailler ensemble. Hein. C'est comme ça. C'est impossible de faire autrement, puisque jamais on aura cette culture si profonde des époques et des arts et des œuvres. Alors, on a beau suivre des cours d'histoire de l'art, quand on peut en bénéficier de par la formation continue, ça reste du vernis, quoi. Donc, ce que j'ai suivi, hein, mais c'est du vernis, hein, ça ne nous permet pas de résoudre les enquêtes. Hein. Et je te rejoins sur le côté qu'on a un peu le même métier, dans le sens où on est sur la recherche des traces. On fait l'historique des biens culturels qu'on a en face de nous, quoi, pour remonter les trafics. Il y a une démarche commune, quoi.
On a le même dialogue, en fait. Hein.
Voilà, exactement. Et le même but.
Et le même but. Mmh.
Comment est-ce qu'on rassemble les preuves, alors? Parce que si on prend un exemple d'un vol d'une œuvre ou une disparition, sans même parler de vol, on commence par quoi? De l'identité judiciaire, comme toute enquête?
Vraiment, ça dépend des enquêtes dont on parle, hein, en fonction du sujet de l'infraction. Pour parler de trafic archéologique, il y a une difficulté, c'est que quand on a un objet en face de nous, il faut savoir que le marché de l'art français est un des marchés les mieux placés au monde. Et ce qui se passe, c'est que les œuvres, elles arrivent sur le marché français plus au niveau du blanchiment. On n'est pas directement, c'est rare que les trafiquants d'antiquités comme on les appelle du sang, mais Vincent, il y reviendra peut-être, arrive sur le marché français plus pour être blanchi. Donc l'enquête, comment elle démarre? Elle démarre justement sur l'identification d'une œuvre, c'est-à-dire, bah, je me souviens en 2015 où on a démarré sur un buste cyrénaïque aussi de Déméter. C'est grâce à Vincent et ses collègues qu'on a pu identifier que cette œuvre était problématique au départ. Parce que nous, on voit un buste, on voit pas de problème. Donc à partir du moment où on est éveillé sur cette problématique, comme quoi ce buste ne devrait pas forcément être sur le marché de l'art au vu de ses caractéristiques et ses spécificités, nous, on démarre l'enquête. Donc là, c'est une enquête qui démarre un peu dans le milieu ouvert. On n'est pas sur du trafic de stupes. On n'a pas.
C'est un travail de veille, on peut dire, de s'intéresser
de veille, voilà.
Qu'est-ce qui est vendu en salle
de
des
veille.
Ventes, dans les catalogues.
Exactement.
Voilà, vous allez chercher ce qui est public.
Exactement, ce travail de veille, on le fait. Les sachants comme Vincent le font aussi. Et donc, sur cette mise en vente, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer les circonstances, le contexte, la traçabilité, c'est le plus important.
Il faut le prouver.
Voilà.
Tout doit
il faut
prouvé.
Voir dans quelles circonstances ce buste est mis en vente. Voilà. Et si les éléments qu'on collecte ne sont pas satisfaisants, qu'il y a des incohérences sur l'expertise, sur la traçabilité, sur l'historique, sur la provenance, là on continue. Le faisceau d'indices s'étoffe et on continue. Et petit à petit, souvent, on donne raison aux personnes qui nous ont aidés à détecter un bien culturel en vente qui peut poser problème.
Ouais. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a les outils classiques, le vol, le recel, l'escroquerie, donc là, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en ce moment, on voit vraiment que le patrimoine est pris pour cible, pour toutes sortes de choses. Et ça va de la petite délinquance jusqu'au terrorisme. Hein, donc c'est vraiment très polymorphe. Et la grande difficulté, ce n'est pas tellement de prouver le vol, même si les trafiquants sont très, très au fait pour maquiller, pour modifier l'aspect de l'objet volé, mais c'est le pillage en fait. Donc ce sont des objets qui ne sont pas référencés et qui arrivent effectivement en France, soit à destination de la France, soit en transit par la France, et qu'on ne peut pas reconnaître. Parce que ce sont des objets qui ont été issus de fouilles clandestines, sur lesquels on va raconter une nouvelle histoire. Et on part du principe que la possession de bonne foi, on présume toujours la bonne foi, on présume aussi que en matière de meubles, possession vaut titre, et ces trafiquants vont jouer aussi sur la crédulité. Et donc on va retrouver des objets qui ont une origine illicite, hein, et qui sont issus de ces fouilles clandestines, qui parfois, comme disait Thomas, financent du terrorisme, et c'est pour ça qu'on parle véritablement d'antiquité du sang. Et ça, c'est la deuxième prise de conscience, en fait. La seconde prise de conscience, c'est 2014-2015. C'est à partir du moment où on s'est dit, mais en fait, Daesh détruit le patrimoine, mais aussi, et au même moment, fouille, perçoit effectivement donc une redevance des fouilles qui l'autorisent, et finance une partie de ces actes terroristes par le trafic des biens culturels. Et là, la France et la communauté internationale a réagi. Et les grandes avancées, les grandes résolutions des Nations Unies, les grandes lois même françaises, hein, on a quand même deux grandes lois, celle du 7 juin 2016 et celle de juillet 2016, qui associent véritablement le trafic des biens culturels au blanchiment, le trafic des biens culturels à tout un réseau, en fait, qu'il s'agit de démanteler.
Une des difficultés, j'imagine, c'est qu'on n'a pas de gros fichiers avec tout référencé. Il y a plein d'œuvres qui existent dont on n'a pas forcément connaissance ou qui ne sont pas répertoriés peut-être.
Oui, c'est la grande différence entre le vol. Là, oui, un vol, c'est-à-dire c'est un objet qui a été soustrait d'une collection publique ou privée. Un objet pillé, par essence, il n'y a pas de liste. Et c'est là où justement, en fait, les sachants peuvent effectuer cette veille documentaire en disant, voilà, c'est un objet douteux. Pourquoi? Parce qu'il est égyptien, il est irakien, il est syrien, il est issu de zones de conflit. Où est le patrimoine? Puisqu'il y a cette prise de conscience que n'importe quel objet a une valeur financière. Et l'immédiateté, Internet, les détecteurs de métaux, tout ça ont accéléré en fait le phénomène de trafic. Et donc on peut voir justement sur Internet une explosion. Hein, souvent on disait, mais est-ce qu'on peut chiffrer justement ce trafic illicite de biens culturels? C'est très difficile. On parle de centaines de millions, on parle de quelques milliards. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des trous comme jamais sur les sites archéologiques des pays sources, hein, que ce soit qu'on soit en Égypte, qu'on soit en Libye, au Yémen, en Irak. Donc ce sont des trous de pilleurs. Hein. On a aussi de plus en plus de saisies sur le sol européen. Et puis, on a quelque chose qui est assez épouvantable, de plus en plus d'objets archéologiques qui sont mis en vente sur Internet. Donc ça, c'est vraiment trois éléments qui nous disent, attention, il faut vraiment réagir.
Et pour, si je peux compléter, pour les enquêtes, au-delà des enquêtes de trafic d'antiquité, pour ce qui est du vol des œuvres d'art, biens culturels français, on a la base TREMA, qui est une base police qui référence tous les biens culturels volés. Et au niveau d'Interpol, puisqu'on est le point de contact du trafic des biens culturels pour Interpol, l'OCBC, on est en charge de cette coopération. On a la base Psyché, qui référence les biens culturels qui sont remontés dans la base, au niveau mondial. Voilà. Mais là, on n'est pas dans l'Antiquité, puisque par définition, l'Antiquité, elle est pillée, on n'a pas connaissance du bien à l'origine.
Oui.
Il est orphelin. C'est pour les vols plus classiques.
Voilà, c'est les vols dans les musées notamment.
Voilà, c'est là
dans
qu'il y aura de la
PTS, collections,
etc. D'accord. Là, on va rentrer sur une enquête de police judiciaire classique, police technique scientifique, etc. Oui, bien sûr.
Ce que je comprends, vous écoutant tous les deux, Vincent et Thomas, c'est que tout ceci est très international, en fait. Parce, parce que ce marché de l'art, finalement, est international et dématérialisé aussi grâce à Internet.
C'est un marché global, c'est un marché vraiment planétaire, hein, qui met en relation un pays source, donc des trafiquants, des pilleurs, et puis bah, des pays qui, eux, vont acheter. Et d'autres pays par lesquels, justement, vont transiter ces biens. Donc c'est vraiment planétaire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessaire prise de conscience, en fait, de la nécessité de coopérer interservices. C'est vrai que, encore une fois, bon, l'archéologue, il n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des enquêteurs. Mais là, parce que, justement, on a ces mêmes volontés de protéger, et puis, voilà, enfin, la protection, c'est bien, mais aussi la répression. Hein, voilà, enfin, c'est vrai que je ne fouille qu'en Orient, donc, depuis 30 ans. Et c'est vrai que le pillage a toujours été un peu mon quotidien, c'est-à-dire qu'en fait je fouille le matin et puis donc l'après-midi je fais du post-fouille et quand je reviens le lendemain matin, bah tiens c'est bizarre, il y a une pierre qui a bougé, tiens il y a un trou. Donc ça veut dire que le site a été visité. Ce dont je m'aperçois maintenant, c'est que d'un petit trou sur mon site archéologique, on est passé véritablement une sorte d'industrialisation. Parce que les gens ont conscience que n'importe quel objet a une valeur. Et qu'on peut facilement se transformer en un parfait pilleur. Parce que sur Internet, on peut trouver tout.
D'où la veille qu'on opère aussi sur Internet, avec des moyens humains actuellement, mais on est aussi sur des réflexions, enfin c'est plus que des réflexions, des projets technologiques d'intelligence artificielle pour pouvoir un petit peu scanner le web pour être plus efficace. Puisqu'aujourd'hui, la chance qu'on a avec les ventes publiques, les ventes aux enchères publiques, la chance qu'on a, c'est que ces objets, ils passent sur Internet à un moment donné. Donc là, on peut intervenir au moment du blanchiment, du recel, si on a échoué sur l'enquête de vol. Donc, pour revenir à votre question, oui, c'est éminemment international. Et on ne peut pas ne pas travailler avec la coopération policière et judiciaire, c'est impossible. Bien sûr, il y a des enquêtes franco-françaises, hein, comme partout, ça dépend des faits. Mais la coopération internationale est primordiale.
Alors dans votre réseau de sachants, qui, je l'imagine, est très important finalement, quels sont les principaux métiers archéologues, chercheurs? Est-ce qu'on a des liens avec les patrons de musées aussi, peut-être avec les commissaires-priseurs, je ne sais pas.
Oui, alors on a des liens, on a un réseau d'experts dont fait partie Vincent. Et encore une fois, il y a l'archéologie, mais il y a tout le reste aussi. Hein. Donc quand on travaille sur un Picasso, il y a le comité Picasso pour savoir si une œuvre est authentique, si elle est référencée, si elle a été volée, etc. Donc il y a les réseaux d'experts, les comités d'artistes, les ayants droit, les sachants et bien sûr les institutionnels, dont fait partie encore une fois Vincent. Mais on a des liens directement avec les directeurs de musées, les collections, parce qu'il y a aussi des collections des fois qui disparaissent après avoir été déposées ou prêtées. Enfin voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les récollements. Donc oui, on est en relation avec tous ces institutionnels au quotidien.
Est-ce qu'on conseille un musée qui fait une exposition temporaire sur sa sécurité ou sur des entreprises privées peut-être qui le font?
Non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, on est entre deux. Nous, on fait de la sécurité, on fait de la répression. Mais en fait, on a des officiers de police qui sont détachés au ministère de la Culture,
d'accord,
qu'on appelle des officiers de sûreté, la mission sûreté du ministère de la Culture, qui sont chargés de la sûreté dans les musées, dans les églises et de l'archéologie. Donc essentiellement, on a trois officiers de sûreté, deux sont policiers. Là, on est plus dans le préventif, en amont. Alors nous, on y participe aussi finalement. On est en plus judiciaire, on devrait faire que du répressif, mais évidemment qu'on ne fait pas que du répressif. On fait de la formation, on fait de la sensibilisation. Et il arrive des fois qu'on ait à échanger avec... J'étais encore hier au ministère de la Culture pour échanger avec ces personnes.
Et bah d'ailleurs, on en profite et on les salue bien.
Voilà.
Est-ce que toi, Thomas, dans ces nombreuses années que tu as passées dans cet office de police judiciaire, il y a une affaire qui t'a le plus marqué ou que tu voudrais partager avec nous, soit parce qu'elle était très complexe, soit parce que tu as appris beaucoup, soit parce que peut-être tu as retrouvé l'œuvre d'art en question, ou tu l'as restituée peut-être aux ayants droit, comme tu le disais tout à l'heure.
Oui, il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y en a deux, trois qui me viennent en tête vraiment qui m'ont marqué, mais disons que certaines affaires sont marquantes par la complexité. Je veux dire, quand on réussit à aller au bout de l'enquête avec les techniques qu'on met en place, des fois qui sont des techniques spéciales, et qu'on aboutit. C'est-à-dire que l'aboutissement d'une enquête réussie, c'est deux choses, c'est l'identification des auteurs et l'interpellation des auteurs, et c'est évidemment la récupération de l'œuvre. Donc là, quand on en est là... Là, on est très satisfait. Alors, sur les enquêtes, j'en ai plusieurs en tête, mais quand on restitue une toile de maître à un musée, on est fiers, quoi. En arrêtant le réseau, je pense à la toile attribuée à Rembrandt, à hauteur de 2015-2016. Pour la petite histoire, on travaille en collaboration avec la PJNIS, la BRI, on interpelle tous les auteurs, on les interroge, on retrouve même le voleur volé 23 ans avant.
Ah oui, quand même.
Et du coup, on interpelle les resellers, on a l'œuvre. C'est vrai que là, au moment où on a l'œuvre, on la saisit, on est quand même assez admiratif de ce qu'on a entre les mains. Hein, je veux dire, on fait ce métier aussi pour ça. Et après, quand on la restitue au musée, on est très fiers. Donc, pour la petite histoire, je vais m'en ouvrir un petit peu de... Je sais pas comment on pourrait appeler, un petit peu de... Voilà, j'étais assez fier. Un jour, j'étais en vacances dans le sud, et avec mes enfants, je suis passé voir l'œuvre qui était à nouveau accrochée sur les murs du musée. Voilà, j'étais super fier de leur montrer ça, pour la petite histoire. Voilà. Et puis bon, bah, sinon, dans les affaires un peu complexes de réseaux internationaux, bah, j'ai en tête une affaire qui nous a mené justement en Ukraine en 2019, le vol d'une toile de maître de Signac au Musée des Beaux-Arts de Nancy. On a récupéré la toile en Ukraine. On a interrogé, donc je suis parti là-bas avec la juge et un collègue de la CRIM de Nancy. On a interrogé le mis en cause. Voilà, on a identifié les personnes, on a des mandats d'arrêt à l'international qui ont été délivrés contre plusieurs personnes. On a identifié les protagonistes, ils ont été arrêtés au final dans le temps, avec la coopération internationale et judiciaire, justement. On a restitué une toile de maître à un musée. Donc voilà, là, il y a une vraie satisfaction dans ces cas-là.
Alors Vincent, tout à l'heure, tu disais les œuvres souvent sont maquillées, les faussaires sont très intelligents pour maquiller les œuvres. Est-ce que c'est souvent qu'une peinture ou dans ton domaine, des statues anciennes sont transformées ainsi? Et comment on fait pour comprendre quelle était sa forme d'origine, finalement?
Ce qui est assez déstabilisant, c'est que c'est souvent par chance ou par hasard, en fait, qu'on découvre ça.
En grattant un peu la toile pour voir qu'il y a une bouffe par-dessus.
La toile, c'est-à-dire Internet?
Ah non, je pensais à une autre toile.
Parce qu'en fait, bien évidemment, rien n'est évident, puisque le trafiquant va essayer de faire en sorte qu'on ne soit plus en capacité de revenir à l'origine, donc à la source de la découverte, qui est une découverte illégale, puisque issue justement d'une fouille clandestine. Donc c'est vraiment les faisceaux d'indices, un objet qui justement proviendrait d'Orient, alors qu'on sait très bien que cette œuvre provient d'Irak, qu'une œuvre qui proviendrait de Libye, alors que c'est marqué effectivement l'une des provinces d'Afrique du Nord. C'est-à-dire toutes ces petites techniques qui font qu'un objet cesse d'être un objet crédible, mais un objet suspicieux. Et en fait, on va essayer de suivre cet objet, ce qui est très long en fait. C'est pour ça que...
Surtout sacrément calé.
Ah, il faut être calé. Non, c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai binôme à avoir. Hein. C'est-à-dire que nous, on a la connaissance des objets, et encore, hein, je pense qu'il faudrait mettre davantage d'étudiants derrière chaque catégorie.
On lance un petit appel.
Ah, mais vous savez, enfin, moi, je fais beaucoup dans la dissémination, dans la sensibilisation, et dès que j'ai un étudiant qui me dit professeur, j'aimerais beaucoup avoir un sujet sur la lutte contre le trafic culturel, la première chose que je fais, hop, j'appelle le CBC et je leur dis de quoi avez-vous besoin ? Parce que c'est ça, en fait. Hein. Mettre un étudiant en master, en thèse, derrière une catégorie d'objets, qui, lui, sera en capacité de suivre l'objet. Parce qu'un chercheur travaille sur un corpus. Hein. Et donc, ce corpus, bah, si l'objet change de dimension, change d'histoire, change de pédigré, là, il devient finalement suspect. Et on a une affaire, effectivement, où là, un objet qui a été volé, en papier, mais volé, qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre en 5 ans, et à chaque fois, qui changeait de dimension, qui changeait d'histoire. Et là, c'est ce qu'on appelle le recel, enfin, c'est ce que Thomas appelle le recel en cascade. Et là, effectivement, voilà, l'objet, on peut espérer que l'objet soit saisi. L'idée, c'est vraiment de travailler de l'identification des objets jusqu'à la judiciarisation des affaires, en passant justement par le temps de l'enquête. Mon but, comme Thomas, c'est que ces objets qui ont été soustraits d'une façon illégale, hein, de ces pays qui sont vraiment multimillénaires, d'une richesse incroyable, puissent être restitués à ces pays. Ça, c'est le but ultime. Bah oui, les affaires de bustes, les affaires de... Alors moi, c'est plutôt l'archéologie orientale. Donc, dès qu'on peut restituer, c'est
gratifiant.
C'est gratifiant, c'est une victoire. Voilà. Et puis aussi, c'est une fierté dans le regard des autres. Hein, voilà, ils sont fiers de pouvoir cesser d'être pillés, d'être spoliés, et qu'enfin, ils puissent se réapproprier le patrimoine.
Donc on lance un petit appel à tous les étudiants qui nous écoutent, mais peut-être oui, de s'orienter vers ces carrières ou de prêter main forte ponctuellement à la police pour gratter, pour travailler un peu plus de manière approfondie sur certains types d'œuvres d'art.
En fait, il peut y avoir des étudiants qui vont travailler sur des thématiques vraiment spécialisées sur la lutte contre le trafic de biens culturels. Ça peut être, je sais pas, les ports francs ou les pays de transit. Mais c'est surtout, et la grande majorité, des étudiants qui vont étudier des figurines, des statues, des Picasso, qu'ils aient une approche classique, c'est-à-dire d'aller en bibliothèque, de faire quelque chose, mais aussi d'aller sur les sites de vente, d'aller aussi gratter du côté justement donc des marchands. Voilà, parce que là aussi, ça va augmenter leur corpus. Puis en plus, ils vont servir en suivant l'objet précisément. Eh bien, ils vont pouvoir servir ce qui est, enfin, en mon sens, les acteurs principaux, c'est quand même les enquêteurs.
Ces étudiants justement qui font. On a une tradition à l'OCBC, hein, c'est de recevoir des stagiaires. J'en ai toujours connu à l'OCBC quasiment toute l'année. Hein. Donc des stages de 2 mois en général, etc. On est vraiment assaillis de demandes.
Une terre d'accueil.
Oui, et puis là, ça intéresse énormément. Donc on a vraiment beaucoup de demandes, on est obligé de trier. Des fois, ça donne des choses assez intéressantes. On a ouvert des postes de contractuels au service, on en a 2 maintenant. Et certains stagiaires qui étaient passés par chez nous, qui se sont qualifiés de par leur formation, leur diplôme, sont revenus chez nous en tant que contractuels. Donc et là c'est tout gagné quoi, parce que on sait ce que ces personnes valent, on sait ce qu'elles sont capables de faire, on les connaît, il n'y a plus qu'à signer le contrat et puis à faire de belles affaires quoi, c'est très productif.
Et justement, comme ça intéresse beaucoup, il y a aussi des séries télévisuelles ouais. qui traitent de ces questions. Je sais pas si vous regardez comme moi Lupin sur Netflix. Quel regard vous portez sur ces séries ou sur ces documentaires ouais. ou sur ces films des fois qui traitent de, est-ce que c'est fidèle à la réalité, est-ce que vous y voyez un intérêt?
C'est toujours un petit peu difficile pour un policier. Enfin, peut-être que tu réfléchis comme moi, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de policiers qui ont du mal des fois à regarder les films policiers parce que
qui critiquent.
Moi, je suis tout le temps en train de critiquer et puis ma femme me met un coup de coude et me dit oh, tu m'embêtes. En l'occurrence, Lupin, je trouve ça très divertissant et je suis la série. Bon, non, mais sinon, il y a la série L'Art du Crime qui met en scène l'OCBC. Alors, ça n'a rien à voir parce qu'ils sont sur des crimes de sang, mais c'est un binôme capitaine de police avec un expert en histoire de l'art. C'est pas mal, hein, c'est romancé évidemment. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mais ils ont imaginé une collaboration comme ça pour élucider des crimes de sang. Bon, voilà, c'est un petit peu... Et ça intéresse énormément de monde. Donc après, la question, c'est plus est-ce que ça intéresse énormément de monde plutôt que moi ou le policier en général. Mais oui, ça passionne pas mal. Hein.
En fait, il faut être hyper créatif, hyper imaginatif. Il faut que les gens prennent conscience que derrière une antiquité peut se cacher une infraction. Et c'est à tous les niveaux. Moi, c'est plutôt au niveau des étudiants, mais aussi dans mon rôle un peu... touche à tout, donc je peux finalement essayer de créer des synergies en fait, de mettre autour du même table archéologues, juristes, c'est ce que je fais à Poitiers hein, chaque année, policiers, je vais même jusqu'à mettre douane administrative et douane judiciaire, vous voyez, on rentre vraiment dans le cas concret. La sensibilisation et la prise de conscience, elle est importante. Et on a réalisé donc il n'y a pas si longtemps une exposition au musée du Louvre. J'étais très content parce que là aussi ça fait partie de petites réussites d'avoir imposé entre guillemets une exposition pendant 9 mois. Hein, sur la lutte contre le trafic des biens culturels et qui mettait en scène donc les fameux 4 bus dont on parlait. Et l'idée, c'était d'exposer non pas des beaux objets, parce que dans un musée, c'est juste normal, mais j'ai obtenu du juge l'autorisation de les exposer avec les scellés. Et autant vous dire que là, les gens se disent ah oui,
c'est inhabituel.
C'est inhabituel. Puis ok, donc c'est comme une balafre en fait. Les gens, je pense, ont pris conscience que voilà, c'est beau, il faut les protéger. On en avait, et c'est que la plupart des gens se disent on ne savait pas.
Oui, on n'imagine pas. Quand on visite un beau musée, on prend du plaisir à regarder les œuvres, on imagine.
L'idée, c'est ça, c'est qu'on ne puisse plus dire qu'on ne savait pas.
Et ce que tu dis est très vrai sur le trafic de stupes et d'armes. Parce que pour parler de notre criminalité, on a du col blanc, on a de la délinquance astucieuse, on a des galeristes, des commissaires-priseurs. Je n'ai pas répondu à ta question tout à l'heure, mais oui, bien sûr, on est en relation avec le marché de l'art, puisqu'on le contrôle aussi régulièrement en amont des affaires. Mais on a aussi des affaires très importantes, en général de crime orgue et d'associations de malfaiteurs. On va être sur des criminels qui viennent du stup, qui viennent des armes, des équipes de fraqueurs qui sont là pour arracher dans un musée. Enfin voilà. Enfin, il faut bien se dire que nous, on a des clients, comme on dit, qui sont vraiment. On passe de la crime orgue au col blanc. Donc c'est assez polymorphe, comme tu disais, quelque part, dans les infractions, mais aussi dans la personnalité des délinquants, quoi, des criminels.
Là, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai que j'ai eu la chance d'accueillir à l'exposition au Louvre donc le DGPN. Et voilà, il fait partie de ces gens à convaincre. J'ai eu aussi le PNF hein, qui est venu.
Le PNF.
Donc le parquet national financier. Parce que j'ai un peu un cheval de bataille, c'est justement la création d'un parquet national des biens culturels. L'idée, c'est que cette association blanchiment et derrière finalement, le terrorisme puisse être cette prise de conscience pour créer un parquet, parce que voilà,
un parquet spécialisé.
Un parquet spécialisé où
pour
il y ait
que les magistrats,
parce que là aussi,
soient aussi mieux formés et plus spécialisés.
On parle des enquêteurs, mais le problème de formation, c'est à tous les niveaux et notamment au niveau justement des magistrats qui ignorent ce que c'est que le code fiscal ou le code du patrimoine.
C'est vrai qu'on fait bien que ce qu'on fait tous les jours et donc quand on se spécialise, c'est aussi l'intérêt de développer ses compétences.
En fait, notre spécialité, d'ailleurs les magistrats sont très ouverts à notre matière, ils aiment beaucoup travailler avec nous, c'est une chance pour nous. Hein. Et on les forme d'ailleurs, parce qu'ils nous demandent de les former. Alors on ne les forme pas à ce que c'est une œuvre d'art, une expertise sur les œuvres d'art, on les forme à ce qui est surtout le marché de l'art, parce que le trafic des biens culturels, c'est de l'argent. On saisit plusieurs millions d'avoirs criminels chaque année. Il y a du blanchiment, l'œuvre d'art est des fois blanchie, et des fois elle est vecteur de blanchiment. Donc là, je rejoins Vincent aussi, c'est extrêmement lucratif. Et là où il y a de l'argent, il y a de la criminalité, forcément.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Vincent. J'espère qu'on aura sensibilisé plein de monde à ces sujets, qu'on aura montré qu'on travaillait ensemble, les grands experts, les archéologues, les chercheurs, et nous, les policiers et les gendarmes. En tout cas, un grand coup de chapeau à tous les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. Un grand coup de chapeau aussi à tous nos amis du ministère de la Culture et à tous ceux qui travaillent sur cette thématique. Et on y pensera un peu plus la prochaine fois que l'on ira au musée. En tout cas, un grand merci à vous deux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.